Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Lexique, histoire et tradition des lions du Punjab. Livre paru aux éditions Albin Michel, nous en recevons l'auteur, Denis Matringe, que nous recevons chaque fois avec stimulation, je ne sais pas, sa présence est toujours stimulante, sa parole est à la fois érudite, historique, cherche à nous faire comprendre. Plusieurs fois, nous avons reçu Denis Matringe dans le cadre de Culture d'Islam pour comprendre avec lui l'un, nous l'autre, des problèmes historiques ou actuels que soulève l'islam dans l'Inde, et particulièrement, évidemment, l'Inde du Nord. Et cette fois, c'est une monographie sur les sikhs que nous propose Denis Matringe. Les sikhs, formation complexe, à la fois en lien avec l'idée d'une religion, en lien avec l'idée de peuple, de nation, le lien avec un territoire, le Punjab, à la fois territoire comme peuple, en lien avec l'islam, bien sûr, les sikhs en tant que credo émane d'une tradition spirituelle indienne qui vient du sud, qui a migré vers le nord, vers le 16e siècle, qui a rencontré l'islam, qui a pris de l'islam, souvent de l'extérieur, plus assimilé à l'islam que dans le corps de doctrine. Toutes ces considérations, Denis Matringe, vous allez nous éclairer. Nous avons aussi une présence de sikhs en France. La présence des sikhs en France appartient à cette diaspora très importante. Alors, un mot très rapide, la littérature sur les sikhs est extrêmement importante en langue anglaise, peut-être parce que les sikhs sont aussi profondément anglophones, et pour ainsi dire inexistantes en français.
Oui, je crois que c'est la troisième monographie. La première était due à une élève du grand indianiste Sylvain Lévy. Elle était parue dans les années 30, en 1933 très exactement. Elle répondait à des interrogations de l'époque. La deuxième est due à une personne que j'ai très bien connue, le père Michel de Lahoutre, qui était dans le dialogue interreligieux, qui avait beaucoup d'amitié pour des sikhs qu'il connaissait, et qui a fait, dans l'amitié avec eux, un très beau livre qui inclut un recueil de textes, qui est paru, si ma mémoire ne me trahit pas, en 1989. Mais ce n'est pas un livre d'histoire des sikhs, c'est plus un livre de présentation de leur tradition dans le dialogue. Ce que j'ai essayé de faire, c'est fondamentalement une histoire des sikhs, et en même temps une histoire de leur culture et de leurs textes.
Ce livre, donc, paru aux éditions Albin Michel en 2008, et qui, évidemment, tient compte de nombre de travaux encyclopédiques sur les sikhs, parus à la fois, surtout en anglais, peut-être un peu en Punjabi.
Oui, en Punjabi aussi. Le problème, c'est qu'avec les travaux en Punjabi, ce sont souvent des travaux, presque exclusivement du reste, des travaux d'auteurs sikhs, et qu'on se trouve là dans la tradition. C'est ce sur quoi j'ai essayé d'insister dans le sous-titre de l'ouvrage « Histoire et tradition ». Alors qu'en effet, depuis maintenant fort longtemps, puisque les premiers ouvrages très sérieux datent de la première moitié du 19e siècle, il y a une historiographie tout à fait constituée en langue anglaise.
Les sikhs, très vite, leur confusion, à la fois l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est cette étrangeté par une sorte d'archi, si j'ose le terme, ritualisme qui se manifeste à travers le devoir de porter le turban, le devoir de porter la barbe. Dites-moi, quand il fait nos sikhs de France avec la fameuse loi sur les signes religieux à l'école?
Il y a beaucoup de choses dans la question que vous posez. Alors commençons par les sikhs de France. Eh bien, les sikhs de France, pour eux, le combat continue. Puisque chaque fois qu'une occasion se présente, ils insistent pour avoir le droit de porter le turban sur leur permis de conduire, sur leur carte nationale d'identité. Et surtout, ils insistent pour que leurs enfants, garçons, jeunes adolescents, puissent fréquenter les lycées avec le turban. Il y a des affaires en cours. De jeunes gens ont été exclus de certains lycées. Et il n'y a pas eu pour le moment d'autre solution trouvée que de les envoyer vers l'enseignement privé. Il est question parmi les sikhs de chercher à faire ouvrir un lycée sikh en France, alors que parallèlement, le combat continue pour ce qu'ils estiment être la reconnaissance d'un trait culturel et non pas d'une marque religieuse.
Et vous, selon vous, est-ce un trait culturel? Est-ce une marque religieuse? Que signifie le port du turban? Que signifie le port de la barbe et de quelques autres signes et attributs?
On leur interdit de porter le turban, mais pas de porter les cheveux longs ni la barbe, parce que sinon, cette interdiction toucherait aussi d'autres jeunes gens, musulmans, chrétiens, sans religion.
Hippie, si j'ose dire.
Hippie, voilà, hippie de retour. Le turban n'est là que pour protéger les cheveux. Il n'est donc en rien religieux stricto sensu. Ce n'est pas un signe religieux. C'est perçu comme tel parce qu'il est porté par des sikhs, mais les paysans du Rajasthan portent des turbans alors qu'ils sont hindous. Les paysans musulmans du Punjab pakistanais portent des turbans. Et combien d'autres personnes dans le monde portent des turbans sans que ce soit un signe religieux? Tous les sikhs ne portent pas le turban. Seuls portent le turban les sikhs qui ont les cheveux longs. Donc si on voulait vraiment porter...
Et alors les cheveux longs, quelle symbolique? Pour quelle raison? Est-ce que c'est une prescription religieuse?
Tout à fait, c'est une prescription religieuse.
Mais que certains ne pratiquent pas, puisque vous dites tout à l'heure que vous venez de dire que tous les sikhs n'ont pas les cheveux longs.
Toute l'histoire des sikhs est dans votre question. C'est-à-dire que selon la tradition, mais l'histoire la confirme en très grande part, en 1699, très exactement, celui qui est le dernier gourou humain des sikhs, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y a plus de gourou apparent, le gourou sur ordre de ce dernier gourou humain est devenu le livre, et la communauté rassemblée d'ailleurs. Sur ordre donc de ce dernier gourou, les sikhs ont adopté un certain nombre de symboles distinctifs ainsi qu'un code, et parmi ces symboles distinctifs figurait le port des cheveux longs et de la barbe. On a beaucoup disserté sur cette injonction. Il semble que ce soit la reprise d'un trait culturel propre aux Jats, c'est-à-dire à une ancienne tribu d'éleveurs nomades sédentarisés comme agriculteurs, mais qui avaient gardé leur tradition martiale et qui avaient gardé l'habitude de porter les cheveux longs. Et ce serait donc ce trait culturel qui aurait été repris sous forme d'injonction religieuse par le dixième gourou et dernier gourou humain des sikhs, nommé Gobind Singh, et qui fait donc partie de l'ensemble de symboles auxquels vous faisiez allusion.
Alors, là, dans votre développement, je relève trois points qui nous ramènent à d'autres espaces de religion et de culture. Le dernier gourou disparu, personne a pris lui. Est-ce qu'il est occulté? Est-ce que c'est la reprise de la tradition chiite, de l'imam occulté? Et puis, vous dites, une communauté rassemblée autour d'un livre, est-ce qu'on se retrouve autour de la problématique de ce que l'islam appelle les religions du livre? Est-ce que l'islam les reconnaît en tant que telles? À ma connaissance, non, mais vous allez nous éclairer. Troisième point, l'origine qui aurait fait les sikhs était une origine guerrière, et nous savons que les sikhs s'attribuent cette volonté, ce désir d'être des guerriers. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre, Histoire et Tradition, entre guillemets, des lions du Punjab, c'est-à-dire le lion est offensif, il est, oserais-je dire, belliqueux, il est violent. Est-ce que c'est l'adaptation du djihad islamique avec cette histoire du livre, avec cette histoire de l'imam occulté?
Non, je crois qu'il y a des points de rencontre, mais ces points de rencontre ne sont pas historiques. Les religions entretiennent comme ça des rapports les unes avec les autres, même si il y a eu des contacts tout à fait spéciaux et fructueux entre les sikhs et les musulmans, ou entre le sikhisme et l'islam. Alors il y a beaucoup de questions là encore dans la manière dont vous m'interrogez. Ce sikhisme en apparence belliqueux, je préférerais militant ou martial.
Martial. Oui.
Voilà. Est codifié à la période dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à une époque qui est historiquement celle de conflits très intenses pour la suprématie dans le Punjab après l'effondrement, au moment de l'effondrement ou du pré-effondrement de l'Empire moghol, entre les sikhs et les moghols d'abord, et puis après la mort du dernier grand empereur moghol Aurangzeb en 1707, entre les sikhs, les moghols et les afghans. Et c'est dans ce 18e siècle.
Donc pardonnez-moi, là il y a la conjonction entre sites moghols afghans, à la fois des problèmes ethniques et des problèmes religieux. Parce
Tout à
que du
fait.
côté afghan et du côté moghol, on a affaire à l'islam.
Exactement.
Ouais.
Et il se trouve que le conquérant afghan qui a donné le plus de fil à retordre aux Sikhs, qui est Ahmed Shah Durrani et qui envahit l'Inde du Nord à plusieurs reprises pour des razzias au XVIIIe siècle, autour du milieu du XVIIIe siècle, pour la première fois, à la différence de ses prédécesseurs, présente ses incursions comme un djihad. Ce qui contraint les Sikhs à fabriquer un discours anti-musulman, à constituer le musulman comme l'autre à cette époque-là. Et c'est très important parce que jusque-là, il n'y avait pas d'attitude hostile à l'islam ou aux musulmans chez les Sikhs, même s'il y avait déjà eu des problèmes assez sérieux entre les Sikhs et les Moghols. Ce n'était pas le musulman qui était constitué comme l'autre, ni l'islam qui était constitué comme la religion fondamentalement aliène et contre laquelle on est en guerre. Ça se noue à cette époque-là et ça va induire une sorte de rétroprojection idéologique de fait du deuxième 18e siècle sur un passé qui ne lui ressemblait en rien. Et ces images sont ensuite restées. Là encore, on entre dans la tradition et l'historien doit démêler les fils de ce qui est reconstruction de ce qui est la poursuite d'une histoire commencée antérieurement sous de tout autres auspices, comme une religion paisible, autour d'un gourou qui prêchait dans un courant hindou qui est celui qu'on appelle de la bhakti, donc de dévotion aimante à un dieu unique, perçu selon les tendances soit comme un dieu doté d'un certain nombre d'attributs, une couleur de peau, la couleur de peau bleu-noir de Krishna, une histoire, les histoires entre l'histoire d'amour entre Krishna et Radha ou l'histoire de Rama reconquérant son royaume, première tendance. Deuxième tendance, cette dévotion aimante peut s'adresser à un dieu qui rappelle celui des chrétiens ou des musulmans ou des juifs, et donc qui n'a pas d'attribut particulier. Et c'est dans ce milieu de la dévotion aimante dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était venue de l'Inde du Sud, qui avait pris pied dans l'Inde du Nord aux alentours du XIIIe, XIVe siècle, et qui s'y épanouit, comme vous l'avez dit, au XVe, XVIe siècle, c'est dans ce courant que naît le sikhisme, que naît un certain courant qui va devenir le sikhisme.
Il y a ce lien aussi avec un territoire qui est très très fort, un territoire et un peuple, c'est-à-dire le Punjab et
oui.
Le Punjabi.
Oui.
Et une langue aussi.
Oui, une langue, le Punjabi, mais ce lien est extrêmement complexe. En effet, ce qu'on appelle le sikhisme se développe localement dans le Punjab, mais il se développe au contact de deux autres religions, l'islam et l'hindouisme. Je dis l'hindouisme pour aller vite, l'hindouisme est un univers extrêmement complexe. Et il le fait en dialogue avec eux, et il y a des traces de ce dialogue dans les écritures sikhes. Avec l'hindouisme, les choses sont relativement simples, puisque le sikhisme, au départ, se situe à beaucoup d'égards dans l'hindouisme. La doctrine de l'acte, qu'on appelle la doctrine du karman ou celle du dharma, n'est pas remise en cause.
Alors c'est quoi le karman, le dharma, en quelques mots, très vite ?
C'est-à-dire, très rapidement, les actes qu'on accomplit dans sa vie, on en reste comptable dans des existences ultérieures. Il y a un cycle de transmigration. Et à chaque renaissance, tous les actes qui n'ont pas été conformes au dharma, c'est-à-dire à l'ordre dit socio-cosmique auquel doit se conformer tout sujet, tous ces actes qui n'ont pas été conformes forment une sorte de reste qui implique de renaître pour s'élever, si possible, graduellement vers des renaissances meilleures, renaître un jour peut-être Brahman ou qui sait Dieu. Cette conception qu'on appelle du samsara, en sanskrit du perpétuel écoulement, elle est tout à fait présente à l'arrière-plan du sikhisme, alors que le prophète de l'islam est totalement absent. On est donc bien dans un univers qui a ses racines quelque part dans une certaine tradition hindoue.
Mais cette référence à l'entité une, vous avez parlé de monothéisme tout à l'heure,
oui.
Et cette entité une, comment elle se manifeste, comment elle s'exprime, j'ai cru, retrouver le mot Rab pour la. Est-ce que c'est pour la désigner qui est le mot musulman, c'est-à-dire pour voilà. dire Seigneur.
Voilà, Rab qui veut dire le Seigneur. Il y a parfois Allah aussi, le nom de Dieu, mais tout autant Ram qui est sans doute le nom le plus fréquent, ou encore Hari qui est l'un des noms de Vishnu. On est là au niveau de la terminologie. La rencontre dont je vous parlais tout à l'heure avec l'islam et qui met en jeu la région, elle se fait de la façon suivante. Les principaux interlocuteurs des sikhs, en tout cas c'est ce qui ressort de leur livre, n'oublions pas qu'ils agissent surtout en milieu rural, leurs prédications se déroulent dans les campagnes du Punjab, ce sont des soufis. Les soufis, donc les mystiques de l'islam au Punjab, leur souci est de faire passer dans un langage local, qu'il s'agisse de la langue punjabi ou des symboles empruntés à la tradition orale et à la culture populaire, il s'agit de faire passer donc dans ce langage local une grande religion universelle qui a commencé en dehors de l'Inde et qui vit d'une vie qui lui est propre à l'intérieur de l'Inde.
Et puis les soufis de cette région avaient tendance au syncrétisme depuis toujours.
Oui.
Ils cherchaient les convergences vers l'hindouisme.
Oui, certainement, certainement. Et en tout cas, utilisaient...
Qui faciliterait la réception de leur discours, j'imagine.
Exactement. Il s'agissait, en partant des histoires d'amour, de la tradition orale ou encore de grands mythes panindiens comme celui de Krishna et de Radha, d'orienter tout l'univers culturel de leurs auditeurs vers la sphère islamique et d'amener graduellement vers l'islam des populations rurales qui avaient été faiblement brahmanisées à la périphérie de ce qui était le cœur du brahmanisme. Les sikhs sont dans une situation très différente. Graduellement, à l'époque de leur premier gourou, ils se séparent du courant qui est celui dans lequel ils ont pris naissance pour se constituer graduellement religion autonome, et ils le font en excluant toute trace de localisme. La langue qu'ils utilisent, ce n'est pas le Punjabi, mais c'est une forme de vieil hindi qui est commune à tous les mouvements de dévotion à un dieu unique dans l'Inde du Nord à leur époque.
La langue rituelle.
La langue rituelle, la langue des écritures, la langue des hymnes. Deuxièmement, ils excluent de leur texte religieux toute référence à la culture populaire ou à la culture locale, et bien entendu, pour une très large part, à l'hindouisme, puisqu'ils prêchent une religion qu'on peut qualifier, pour aller vite, de monothéiste. La situation est donc très différente de celle des soufis. Et le dialogue avec l'islam se noue, si on peut dire, dans cette configuration-là.
Vous avez parlé de la question de la langue. Pourtant, ils ont la passion de la langue punjabi, puisque un des poètes qu'ils aiment le plus, les sikhs, fussent-ils sikhs, là c'est l'appartenance au Punjab qui prime sur le sikh, est un poète qui écrivait en punjabi. Vous dites même, rappelez-moi d'ailleurs son nom,
Varis Shah,
que c'est leur Dante d'une certaine manière.
Oui, Varis Shah est le Dante des Punjabis. Alors, en effet, ce n'est pas parce que les textes religieux excluent soigneusement et la langue punjabi et la culture punjabi que les sikhs en sont pour autant moins punjabis. Il y a une dialectique que vous avez très bien évoquée au début de notre entretien, qui est celle, en effet, de ce courant religieux et de son ancrage dans une région de l'Inde qui est le Punjab. Et le fait qu'il y ait une dimension ethno-religieuse dans le sikhisme explique pour partie ce goût des sikhs pour une culture punjabi dont ils estiment être les seuls vrais porteurs. Puisqu'après tout, à l'époque contemporaine, évidemment, le colonialisme est passé par là, les contradictions qui sont nées à l'époque coloniale aussi. À l'époque contemporaine, les musulmans du Punjab se sont identifiés à l'ourdou et à sa culture. Les hindous du Punjab se sont très largement identifiés au hindi et à sa culture, lointain héritier du sanskrit. Et les sikhs se considèrent comme les vrais porteurs de la culture punjabi. Et donc, ils vibrent à tout ce qui est profondément punjabi. Or, il se trouve en effet, comme vous l'avez dit à deux reprises déjà, que le Punjab a son Dante et que ce Dante se trouve être un grand poète musulman du XVIIIe siècle, Varis Shah, qui a donné la version littéraire la plus sublime de la plus grande histoire d'amour de la tradition orale du Punjab, l'histoire de Mademoiselle Hir et de Monsieur Ranja.
J'imagine que s'il est tant aimé, c'est qu'il investit, qu'il habite profondément, qu'il bâtit sa demeure au sein même du Punjabi.
Absolument, c'est un texte qui, comme vous le dites, bâtit sa demeure au sein du Punjabi, au sein de l'âme des Punjabis, dans la mesure où il exprime la résistance de deux jeunes gens aux barrières sociales qui les empêchent de s'aimer librement. Et ça, le système des castes notamment et toutes les formes d'autorité sont connues et vécues douloureusement par tous les jeunes gens du Punjab, qu'ils soient hindous, sikhs ou musulmans.
Donc l'idée de caste, même en islam, constitue au moins une rémanence en Inde.
Tout à fait. L'idée
vous nous l'avez d'ailleurs démontré bellement dans une des émissions que nous avons consacrées à un de vos livres.
Oui, absolument. Les musulmans du Punjab, comme les chrétiens du Punjab, vivent dans une société de caste. C'est une société de caste dans laquelle la caste a perdu sa dimension sotériologique, c'est-à-dire la dimension selon laquelle, pour les hindous, il faut se conformer à son devoir, à son dharma de caste pour aller vers une bonne renaissance et peut-être vers une forme de salut. Mais la dimension sociale de la caste est très présente chez les sikhs comme chez les musulmans. Et en dehors des élites, on se marie à l'intérieur de sa caste et en dehors de sa sous-caste, exactement comme chez les hindous.
En tous les cas, le sikhisme comme religion, comme croyance, s'élève contre les castes, si je me trompe
pas. Tout à fait.
Il ne les reproduit pas.
Il ne les reproduit pas.
Il en subit la rémanence, si j'ose dire, tout simplement.
Exactement. Oui. Il en subit ou il en accepte la rémanence ou l'existence très forte au niveau social, mais il la rejette au niveau doctrinal. Et là, il y a une rencontre intéressante avec l'islam, c'est que l'un des signes forts de ce rejet de la caste au niveau doctrinal ou sotériologique, c'est le fait que dans les lieux de culte sikh, les sikhs sont ritualistes pour certains d'entre eux dans leur apparence, mais ils ne le sont pas du tout sur le plan religieux. Le seul rite, c'est le chant d'hymne. Mais donc, dans les lieux de culte, c'est l'un des paradoxes.
Oui, oui.
Dans le lieu de culte sikh où on chante les hymnes, l'un des grands moments, c'est le repas pris en commun dans ce qu'on appelle le langar. Et le langar, c'est le réfectoire, le concept, comme le mot, sont empruntés à l'islam. C'est un mot persan, donc c'est venu du monde iranien. Et c'est le partage de la nourriture, quelle que soit la caste. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui est inconcevable dans l'univers du brahmanisme.
ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਚੌਕਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚੈਨ ਰਵੇ ਵਸਦੀ ਚੌਕ ਫਰੀਦਣ ਦੀ ਰਵੇ ਵਸਦੀ ਚੌਕ ਫਰੀਦਣ ਦੀ
Denis Matringe, ces sikhs, donc ce rapport sikh-punjab, je cite une autre référence, les sikhs aiment beaucoup ce chant soufi, qawwali, qui est très présent en Punjab. Le qawwali, c'est plutôt en urdu qu'en Punjabi. Nous avons des qawwali en Punjabi?
Oui, le qawwali se chante dans plusieurs langues. Le qawwali, c'est donc le chant rituel soufi tel qu'il est connu en Inde du Nord en général et au Punjab en particulier.
Vous nous en citez l'auteur le plus éminent.
Nusrat Fateh Ali Khan, le praticien.
Feu Nusrat Fateh Ali Khan,
voilà.
Qui avait un énorme succès en Occident.
Qui a assisté
à un de ses concerts à Berlin avant la chute du mur, à Berlin-Ouest. Il y avait 4000 personnes enthousiastes.
Oui. Et c'est très frappant de voir que sur YouTube, si on fait Qawwali Nusrat, on tombe sur une séance de Qawwali, je crois que c'est à Birmingham, où les plus déchaînés sont les sikhs du premier rang. Pour les sikhs en général, la croyance en Dieu et le respect de Dieu est très important. Les sikhs, très souvent, vous diront, moi, quand je viens à Paris, par exemple, la première chose que je fais, c'est d'aller à Notre-Dame, parce que j'arrive en France, je vais d'abord dans la maison de Dieu. Et si je suis dans un pays musulman, je vais à la mosquée, parce qu'il faut d'abord aller honorer Dieu avant d'honorer les hommes.
Donc, ils croient à cette idée qu'il y a le même Dieu pour tous et que les religions particulières sont tout simplement des formalisations propres.
Absolument. Et ça, c'est net. Tout à fait. Et c'est net dès la prédication du premier gourou de Sikh, qui s'adresse aux musulmans en lui disant non pas cesse d'être musulman, mais deviens un bon musulman. Fais du pèlerinage dans ton cœur, fais du pèlerinage dans ton cœur le pèlerinage. Mais il ne lui dit pas, deviens sikh. Du reste, le sikhisme n'existe pas. Il ne sait pas qu'il est en train d'inventer une nouvelle religion. Mais il y a un respect absolu de l'amour de Dieu chez qui que ce soit qu'il se manifeste.
Est-ce qu'il est prosélyte, le sikh?
Non. Globalement, non. Là, on retombe dans ces contradictions que vous avez si justement soulignées. C'est-à-dire que le sikhisme est, d'une certaine manière, pris dans ce que vous avez appelé la rémanence du système des castes, et que donc il est très difficile pour un sikh d'imaginer, par exemple, de marier sa fille, je ne dirais pas avec un non-sikh, mais avec quelqu'un qui n'est pas de la même caste. Et donc le sikhisme n'est pas fondamentalement prosélyte. Il l'est très peu, il l'est marginalement, et là où il l'est le plus, c'est dans des sectes sikhs qui ont été fondées en diaspora, les sikhs eux-mêmes utilisent ce terme de diaspora, notamment aux États-Unis. Mais le sikhisme en Inde n'est pas une religion prosélyte, même s'il y a des conversions. Traditionnellement, ces conversions prenaient la forme suivante. Dans un certain nombre de familles du Punjab, notamment dans la caste commerçante des Khatri, il était de bon ton, je dirais presque de bonne guerre, de faire du fils aîné un sikh, pour affirmer ce côté brave, ce côté défenseur du Punjab frontalier d'autres mondes, à l'intérieur de la famille.
Martial.
Martial, voilà.
Et en termes de proportion, combien de Punjabis sont sikhs et combien de non-Punjabis sont sikhs?
Alors, il y a non-Punjabi sikh, c'est infinitésimal. Il n'y en a presque pas.
Il y a quelques blancs, il y a quelques européens,
voilà,
quelques anglo-saxons en Amérique.
Voilà, c'est ça. Je n'ai pas de chiffres. Ça doit être de l'ordre de quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers, mais ça serait le grand maximum. Au Punjab, par contre, c'est plus de 50% de la population.
Qui est de combien?
La population du Punjab est d'environ 80 millions d'habitants.
Donc 40 millions de sikhs.
Voilà. Non, 20 millions de sikhs au Punjab indien. 80 oui. millions, c'est le grand Punjab, 20 millions
et
de
combien
sikhs.
Combien en diaspora?
Et en diaspora, sans doute aujourd'hui, 2 bons millions.
Alors, c'est ça qui est surprenant. Très peu nombreux, finalement, mais très présents dans le monde. 20 millions, c'est pas vraiment beaucoup. 2 millions diasporiques, c'est pas beaucoup. Alors qu'ils sont très présents, manifestes dans le paysage anglais, même quelque part en France, nous savons qu'ils existent. Vous avez parlé tout à l'heure d'un combat pour l'école, contre la loi.
Oui.
Est-ce qu'on peut être sikh et républicain?
Tout à fait. On peut être sikh et communiste. Il y a même une très belle littérature communiste sikh. Donc il y a toute la palette idéologique. Il y a beaucoup de sikhs athées aussi, c'est-à-dire qui revendiquent...
Donc c'est beaucoup plus finalement l'appartenance à une communauté qu'à une croyance.
En un sens,
et pourtant,
certains sont croyants.
Et pourtant, il y a encore une fois cette apparence du ritualisme à travers les signes qu'on perçoit de l'extérieur, signes non pas communautaires mais religieux.
Chez ceux qui ont accepté le nouveau code proposé par le dernier gourou humain, ce qui est loin d'être le cas de tous les sikhs. Il y a beaucoup de sikhs qui n'ont pas les cheveux longs, qui ne portent pas la barbe et qui se disent sikhs mais qui ont un rapport beaucoup plus flexible à l'hindouisme par exemple. Donc c'est évidemment les sikhs qu'on appelle du Ralsa, de la communauté des purs, cette communauté qui a été créée à la toute fin du XVIIe siècle par leur dernier gourou humain. Ces sikhs-là sont ritualistes dans leur apparence et ont un
Ralsa,
rituel...
C'est pas un mot d'origine arabe, Ralsa,
tout à fait, absolument, c'est tout à fait. Et le Khalistan, c'est comme le Pakistan, ce sont deux pays des purs. Le Khalistan, c'est le pays imaginaire des fondamentalistes sikhs. Des
ah,
années
y a aussi,
80.
Il y a aussi un fondamentalisme sikh.
Ah, il y a eu un fondamentalisme sikh qui a fait 20 000 morts au Punjab dans les années 80. Et qui a duré, qui s'est appuyé sur un mouvement terroriste extrêmement dur, manipulé de façon très dangereuse par le parti du Congrès et par Indira Gandhi. Et oui, il y avait un véritable fondamentalisme. Et il y a un courant fondamentalisme sikh aujourd'hui encore. C'est quelque chose qui existe. Les fondamentalistes sikhs des années 1980, l'histoire qui permet de comprendre la raison de ce fondamentalisme est très longue, on ne va pas l'aborder tout de suite, mais ces fondamentalistes sikhs se sont mis à massacrer des hindous au Punjab en se disant comme ça, les hindous massacreront des sikhs ailleurs en Inde et les sikhs reviendront au Punjab et notre majorité y sera écrasante et on pourra obtenir un état indépendant sous le nom de Khalistan, le pays des purs. Ah ben voilà. Le pays du Khalsa, donc de ce courant militant du sikhisme. Évidemment, il faut tout de suite préciser que ces fondamentalistes sont ultra minoritaires et que parmi eux, ceux qui pratiquaient le terrorisme étaient minoritaires. Donc c'était un tout petit nombre, mais
le
dans 20 millions, voilà.
Est toujours minoritaire, mais producteur de hautes turbulences.
Voilà, alors le terrorisme fini, c'est-à-dire la crise s'est résolue au début des années 90, en 1992 très exactement, mais elle avait duré plus de 10 ans, presque 15 ans.
Denis Matringe, depuis tout à l'heure, on parle des sikhs, mais je ne vous ai pas demandé quel sens porte ce mot, le sikh. Alors, vous l'expliquez très bien dans votre livre.
Oui, sikh, pour aller au plus court, c'est un mot hindi et punjabi aujourd'hui.
Vous pouvez vous étendre aussi, qu'en effet, c'est complexe.
Qui remonte à un mot sanskrit, shishya, qui désigne l'élève, littéralement le disciple, celui qui suit l'enseignement d'un gourou. Et donc les gourous des sikhs appelaient leurs disciples des sikhs, c'est-à-dire des shishyas, c'est-à-dire des élèves. Finalement, les sikhs, ça veut dire les élèves ou les disciples. Encore une fois, les premiers gourous n'avaient pas conscience de fonder, surtout le premier gourou n'avait pas conscience de fonder une religion nouvelle. Il prêchait la dévotion, donc on est là, à la fin du 15e, au début du 16e siècle, il prêchait la dévotion à un dieu unique. En ce sens, on est dans un monothéisme. Un dieu unique qui accorde sa grâce à certains hommes, auxquels il fait entendre sa voix dans leur cœur. Et c'est ça que lui, Nanak, ce prédicateur, ce premier gourou des sikhs, appelait gourou.
Avouez qu'on est là plus proche du soufisme que de la tradition hindouiste. Le fait qu'il connaît un dieu représentable d'une certaine manière, dans son invisibilité.
Oui, mais ceux qui travaillent sur l'hindouisme vous diront que ça existe aussi dans la tradition hindoue, que c'est des développements qui se rencontrent. Donc il est très difficile de trancher.
Donc c'est médian en tous les cas, c'est en résonance avec ces deux espaces de spiritualité
antérieure. Ça vient clairement, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, d'un univers hindou, mais il y a une rencontre à différents niveaux avec la spiritualité soufie, une rencontre. Alors, jusqu'où elle va, c'est difficile à dire. Les cadres doctrinaux sont définitivement insérés dans la tradition hindoue, même ceux dont je suis en train de vous parler, où le vocabulaire est profondément hindou. C'est-à-dire que quand Dieu accorde la grâce qui consiste à faire entendre sa voix, c'est lui qui choisit, on ne peut pas le contraindre. Et il y a un très beau dialogue dans le livre sacré des sikhs, qui est un ouvrage composite dans lequel se trouvent certains textes soufis, entre le premier gourou des sikhs et un grand maître soufi de son époque, où il répond à un poème du maître soufi en lui disant « Tu dis que on peut, par le jeûne, par la méditation, par la prière, en un sens contraindre Dieu à venir ». Et moi je dis que Dieu va vers qui il veut, même vers celui qui dort et qui ne prie pas. Donc il y a là un débat doctrinal sur la question de la grâce, mais où le voisinage est ressenti. On
très
est
soufi.
Dans le dialogue.
Très soufi. Hein. Oui. Vous le savez bien, Denis Matringe, vous qui fréquentez avec passion les textes soufis locaux, et d'ailleurs, bien sûr, venant de la grande tradition classique de langue persane ou de langue arabe. Vous avez parlé tout à l'heure des écritures sikhs. Là aussi, c'est pas évident. Il y a tout un débat à l'intérieur de leur propre tradition sur le canon de ses écritures, oui. Elles sont extensibles, certains textes sont admis par les uns, rejetés par les autres, certains rajouts, une longue période d'au moins 2 siècles de constitution. Qu'en est-il de cette... Est-ce que, par exemple, dans la tradition sikh, outre ce que dit la tradition sur la problématique de la constitution des écritures, est-ce que chez les sikhs même, une dimension historiographique au sens moderne du terme apparaît de nos jours?
En effet, aujourd'hui, certains des meilleurs spécialistes des écritures sikhs sont des sikhs.
Au sens scientifique du terme, entre guillemets.
Voilà, au sens scientifique du terme, entre guillemets. Et ils travaillent le professeur Mann aux États-Unis, le professeur Jivan Deol à la School of Oriental and African Studies, qui sont
donc
deux des
Donc ils travaillent dans les grandes institutions académiques occidentales.
Tout à fait, et ce sont eux qui sont parmi les meilleurs spécialistes des écritures aujourd'hui, qui sont en train de renouveler en profondeur notre approche de ces textes.
Interrogeant évidemment la problématique de la constitution des textes, telle que dans la tradition.
La constitution du canon, exactement. Questionnant l'approche de la tradition par rapport à ces textes. Mais dans ce que vous avez dit, il y a une autre question qui me paraît très importante, qui est celle de la constitution du canon. Il y a, là encore pour aller vite, 2 grands textes sacrés. L'un qui est dû aux 5 premiers gourous des sikhs et qui se constitue donc
de quelle époque, à quelle
au
époque,
16e
à peu près,
siècle, 16e. Donc qui est achevé en 1604. Donc il est la rédaction finale date de 1604. Il y a une retouche ultérieure, mais elle ne change pas du tout la nature de l'ouvrage. Ce premier livre qu'on appelle l'Adi Granth, livre premier, il a aussi d'autres dénominations, consiste dans les hymnes des premiers gourous des sikhs, les 5 premiers, ainsi que dans des hymnes d'autres représentants de ce courant de dévotion aimante parmi les hindous dont je vous parlais tout à l'heure, et de quelques textes soufis. Ce texte-là, ce livre, ce corpus d'écriture, est admis par tous les sikhs, quel que soit le courant auquel ils appartiennent. L'autre texte, dont la composition est attribuée au dernier gourou des sikhs, Guru Gobind Singh, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à propos du code qu'il a institué en 1699, ce livre-là est interrogé, voire parfois, pour certaines de ses parties, contesté. À l'intérieur même de la tradition sikh, tous les érudits traditionnels des sikhs ne sont pas d'accord pour dire que l'intégralité du corpus soit attribuable à leur 10e gourou. Il y a même dans ce texte certaines parties, 2 notamment, qui sont fortement récusés par un certain nombre d'intellectuels traditionnels des sikhs. La première, c'est un ensemble qui raconte des histoires hindoues de type puranique, c'est-à-dire des histoires de dieux, en d'autres termes. Pour aller vite, il y a toute une série de textes qui racontent la geste de Krishna et toute une série de textes qui racontent la geste de Rama, dont certains intellectuels sikhs pensent qu'elle n'a pas sa place dans le livre sacré, que c'est une accrétion dû au milieu dans lequel vivait le 10e gourou. Et surtout, il y a toute une portion de ce texte qui raconte des histoires où les femmes sont critiquées pour leur tendance à l'adultère. Or, comme le sikhisme se veut une religion du respect de la femme, et une religion qui, au moins sur le plan théorique, met la femme à égalité avec l'homme, cette partie-là de leur 2e livre sacré apparaît inacceptable à beaucoup, et elle est absente maintenant de nombreuses éditions qu'on trouve en Inde de ce texte.
Qu'est-ce qui particularise, est-ce qu'il y a des signes propres aux femmes sikhes? La question du voile, par exemple, elle est assez surprenante.
Les femmes sikhs sont des femmes panjabi. Elles portent donc l'habit traditionnel des femmes panjabi, qui est le pantalon bouffant et la tunique, qu'on appelle chaloir kameez, accompagné du traditionnel dupatta, c'est-à-dire cette écharpe qu'on porte sur les épaules avec les pans rejetés vers le dos, ou parfois sur la tête. Donc rien ne permet de distinguer fondamentalement, au niveau du costume, une Punjabi hindoue, une Punjabi sikh, d'une Punjabi musulmane. Maintenant, au moment où il a instauré son code en 1699, le gourou des sikhs a non seulement dit que les femmes pouvaient être baptisées comme les hommes, mais aussi que de même que les sikhs hommes prendraient pour nom Singh, qui veut dire le lion, au sens combattant, toutes les images que vous avez si bien évoquées tout à l'heure, eh bien, il a demandé aux femmes de prendre le nom de Kaur, qui est la forme Punjabi aujourd'hui d'un vieux mot sanskrit Kumari, dont le sens le plus usuel est princesse. Donc, toutes les femmes sikhs qui reconnaissent leur alsa et cette réforme, en quelque sorte, du dixième gourou, s'appelle Kor et c'est là un signe distinctif.
Et est-ce qu'il y a une... on peut estimer qu'il y a l'équivalent d'une sharia chez les sikhs, c'est-à-dire d'une loi religieuse ou leur rapport avec le droit, est-ce qu'ils s'adaptent plus facilement que certaines tendances de l'islam avec le droit positif lorsqu'ils se trouvent en diaspora?
Pour de nombreux sikhs, oui. C'est-à-dire qu'une bonne partie des sikhs du Ralsa et beaucoup de sikhs qui ne sont pas dans cette nouvelle fraternité militante fondée par le dixième gourou s'adaptent pour aller vite. Le problème en Inde est complexe parce que dans la constitution indienne telle qu'elle a été publiée en 1950 et qui distingue le droit personnel des autres formes de droit, les sikhs, pour ce qui est du droit personnel, sont assimilés aux hindous. Et c'est pour eux un grand sujet de colère. Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier d'un droit personnel qui leur soit propre. Et dans ce sens-là, il y a certaine agitation.
En quoi ils seraient à distinguer du statut personnel des hindous? On imagine pour le statut personnel islamique, mais pour la distinction, elle jouerait sur quoi?
Alors, la distinction...
Y a-t-il de la polygamie chez eux, par exemple?
Oui, ça ne jouerait pas là-dessus, parce qu'il y a de la polygamie chez les hindous tout autant que chez les sikhs, même si c'est de manière différente. Alors, pour reprendre les choses cette fois par le côté du droit et la comparaison avec la charia, on ne peut pas dire qu'il y ait l'équivalent de la charia chez les sikhs, parce que le code est apparu tardivement, longtemps après celui qu'on appelle rétrospectivement le fondateur.
Donc
Nanak.
Il n'est pas extrait des écritures.
Il n'est pas extrait des écritures, il est parallèle aux écritures. Et même si la tradition le rapporte à cet événement fondateur qui est la création du Ralsa en 1699, les historiens et même des historiens sikhs ont montré qu'il s'était constitué graduellement au cours des 18e et 19e siècles. Et ce qu'on appelle le code sikh n'a été finalement publié que dans les années 50. Et c'est un code qui est beaucoup moins englobant et contraignant, je dirais, que la charia. Il insiste beaucoup plus sur les aspects religieux et moraux, et il touche beaucoup moins, ou il ne touche même pas, à vrai dire, aux questions à proprement parler juridiques, par exemple.
Un épisode, je l'évoque ici parce qu'il fallait bien l'évoquer, c'est peut-être pas en bonne logique. L'histoire des sikhs à l'époque coloniale, elle a été fluctuante, elle est passée, disons, de l'opposition à une forme, je dirais, d'acceptation. Je ne dirais pas collaboration, le mot serait un peu excessif, mais les Anglais, les Britanniques appréciaient justement cette dimension martiale des sikhs. Ils engageaient très souvent des sikhs pour les armées locales, composées d'autochtones, les fameux sépahis, non? Comment on
oui,
les appelle?
Avait, oui, parmi les sépahis, il y avait des sikhs.
Il y avait des sikhs.
Il y avait des régiments
voilà.
Sikhs dans l'armée britannique des Indes.
Et puis, finalement, avec le gandhisme, une alliance pour l'indépendance, et là, ils se sont fait indianistes, si j'ose le terme.
Oui, je crois que votre lecture est tout à fait correcte. Il y a en effet différents moments. La première rencontre entre les sikhs et les britanniques, enfin la première vraie rencontre, ce sont deux guerres en 1846 et 1849, guerres au terme desquelles le royaume, dit royaume sikh du Punjab, qui avait été fondé par un chef de guerre sikh nommé Ranjit Singh, qui était mort depuis 10 ans à l'époque de la deuxième guerre anglo-sikh. Donc ce royaume sikh est annexé à la couronne britannique, enfin est annexé par les Britanniques. Les armées sikhs sont désarmées, et puis il y a une période de pacification, et assez vite, les sikhs font preuve de bonne volonté et retrouvent graduellement le chemin de l'armée. Un tournant
de l'armée britannique
oui. Des Indes. Un tournant très important, c'est celui de la révolte des Sipahis en 1857, qui a fait trembler la domination britannique sur l'Inde, et que rétrospectivement et très idéologiquement, les Indiens analyse parfois comme la première guerre de libération. dans cette guerre, en tout cas dans ce soulèvement qui part de certains régiments de l'armée britannique des Indes, pour brimer, pour réprimer ce soulèvement, les Britanniques vont faire appel à des Sikhs. Et les Sikhs se prêtent au jeu pour diverses raisons. L'une de ces raisons, c'est que la conquête du Punjab avait été faite, certes, par l'armée britannique des Indes, mais eux avaient surtout vu en face d'eux des soldats musulmans. Et de surcroît, ils n'avaient pas oublié les constructions historiques selon lesquelles ils étaient héréditairement, ce qui est tout à fait inexact quand on va dans un passé plus lointain, les ennemis des musulmans. Et donc ils se prêtent en quelque sorte au jeu. Cette situation de collaboration, disons, pour reprendre ce mot, puisque ça a été en effet le cas, dure jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les Sikhs participent de façon très importante à l'effort de guerre. Ils ont des milliers de morts sur les champs de bataille de l'Europe de la Première Guerre mondiale. Il suffit d'aller au cimetière d'Ypres, par exemple, en Belgique, pour voir les non-Sikhs sur les arches ou sur les tombes. Mais après la Première Guerre mondiale, les avantages qu'ils avaient espérés en forme de reconnaissance ne viennent pas. Au lieu de cela, il y a un terrible massacre de participants à un rassemblement organisé par des Gandhiens à Amritsar en 1919, dans un endroit dit Jallianwala-Bagh. Et là, c'est un tournant. C'est l'autre grand jalon. Donc on a 1849, la guerre anglo-sikh, 1857, la révolte des Sipayes et le rôle des Sikhs, et maintenant la fin de la Première Guerre mondiale et le changement d'attitude. Les Sikhs, complètement déçus par la manière dont les Britanniques les traitent, s'engagent graduellement et très fortement dans le mouvement de libération nationale.
Il y a eu même une rencontre qui a été très importante, qui a été suivie d'un acte d'alliance avec Gandhi, je crois.
Tout à fait. À l'occasion du massacre que je viens d'évoquer, Gandhi a manifesté sa solidarité, est venu et il y a eu en effet une alliance très forte scellée à partir de ce moment-là.
Alors les Sikhs maintenant, en conclusion, on a parlé plus ou moins de la présence des Sikhs en France, la grande réussite des Sikhs en Grande-Bretagne, les Sikhs au Punjab, de très grosses fortunes, leur présence majeure, on estime que peut-être ils auraient un rôle actif dans l'histoire, dans le futur même de la langue anglaise, en tant que locuteur anglophone. Cette manière particulière de parler l'anglais à partir donc du Punjab. Vous-même, vous m'avez dit que vous avez appris l'anglais
au Punjab.
Au Punjab même, donc oui. vous êtes imprégné
l'anglais
par cette par cette manière de parler. Quel avenir pour à la fois en Inde, en Europe, dans le monde des Sikhs?
Mais les Sikhs sont très entreprenants. C'est lié à leur histoire. Leur histoire a été...
En tant que minorité, peut-être.
En tant que minorité. Oui. Alors, le problème, c'est que les Sikhs sont aujourd'hui, à cause des effets de la partition majoritaire dans le Punjab, mais ils gardent ce complexe de minorité qui les met toujours, d'une certaine manière, sur la défensive. En même temps, ce sont des populations qui ont toujours été très entreprenantes et qui ont connu l'adversité, l'adversité dans la lutte contre les Moghols, l'adversité à l'époque du colonialisme britannique, et l'adversité aussi parce que dans leur système d'héritage, chez les Sikhs et notamment chez les Jats, donc chez les Sikhs des principales castes rurales, l'héritage est partagé de façon strictement égale entre les garçons. Et donc il y a un morcellement de la propriété qui oblige très vite certains membres de la famille à chercher fortune ailleurs. D'où la diaspora, d'où la participation au travail sous contrat, comme on le disait au temps des Britanniques, ce qui fait que les Sikhs se sont retrouvés à l'époque des Britanniques en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique. Et cet esprit entreprenant continue à jouer à plein. Et de même, cette absence de réticence à quitter le Punjab et à s'expatrier sur les cinq continents.
Merci infiniment du Numatringe, de ce temps de savoir, de pertinence dans ce sujet qui constitue un objet complexe qu'est l'histoire et la réalité des Sikhs. Les Sikhs donc de Denis Matringe, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Inde du Nord en la pluralité de ses manifestations et expressions. Les Sikhs, histoire et tradition des lions du Punjab, paru aux éditions Albin Michel, dans cette belle collection qui s'appelle Planète Inde, qui a été créée par cet éditeur et qui est destinée à faire connaître les 1000 facettes du sous-continent.
C'est une très belle aventure éditoriale qu'il faut soutenir.
Merci donc, c'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, coordination Dominique Compétissa, son technique Jean-François Néolier, réalisation mise en onde François Connac.